Oui, bonsoir. Je suis donc Xavier Accard de la revue Prier. Il y a d'ailleurs quelques exemplaires là-bas. Si vous voulez découvrir ce magazine, n'hésitez pas à vous servir. Je suis très heureux d'animer cette table ronde ce soir avec trois intervenants de grande qualité et qui a pour but de mettre en valeur la diversité qui existe au sein de la communion de l'Église. Comme dit le Christ dans l'Évangile selon Saint Jean, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Et c'est d'ailleurs peut-être une spécificité du catholicisme. En fait, je parle peut-être sous le contrôle de théologiens, mais par exemple, dans l'orthodoxie, il y a un monachisme, en fait. Il n'y a pas toutes ces formes de vie religieuse. Donc c'est un génie propre au catholicisme d'avoir su, comme ça, formaliser des grandes familles spirituelles, des écoles de spiritualité qui sont apparues au cours de l'histoire de l'Église. À chaque fois, finalement, pour répondre aux exigences de l'époque, aux conditions de vie, à l'ambiance intellectuelle, enfin, aux transformations sociales, et pour à chaque fois répondre au mieux à l'appel du Christ, et puis pour annoncer la parole du Christ. Alors, on aurait pu choisir, par exemple, les bénédictins auxquels il faut toujours revenir dans les périodes de crise comme la nôtre, qui sont vraiment un fondement dans la contemplation, auxquels Benoît XVI, quand il était venu aux Bernardins, nous avait appelé à revenir à la parole, à la méditer dans l'Alexio Divina. On aurait pu parler des dominicains, les frères prêcheurs. On aurait pu parler des carmes et des chartreux qui ont une... on en parlera, mais enfin ce soir, qui ont une vocation à semi-érémitique. Mais on a pourtant choisi trois autres familles, les chanoines réguliers selon la règle de saint Augustin, les jésuites et les franciscains. Trois familles spirituelles qui sont nées à trois époques différentes, puisque la spiritualité augustinienne est née avec saint Augustin, donc dans l'Antiquité latine. La spiritualité franciscaine avec François d'Assise, donc au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, les jésuites avec l'époque moderne, avec Ignace de Loyola au XVIe siècle, donc vraiment trois familles spirituelles singulières, et le choix de ces trois familles spirituelles est lié, comme le disait le père qui introduit ce débat, ou cette table ronde, à une actualité éditoriale, donc cette collection qui paraît chez Talendier, que François Maillot, qui est là, a eu la bonne idée de lancer, pour présenter toute cette richesse des familles spirituelles au sein de l'Église catholique. Alors, on va parler de ces trois volumes ce soir. Je vais vous présenter rapidement les trois auteurs que nous avons la chance d'avoir. D'abord le père Guillaume Cause, parce que nous sommes chez lui et nous le remercions de nous recevoir au centre au Sèvres, parce que vous êtes donc jésuite, docteur en philosophie et doyen de la faculté de philosophie du centre Sèvres, de ce centre Sèvres où nous sommes reçus. Fidèle à vos illustres prédécesseurs, vous enseignez en Chine, à Canton, et pratiquez la calligraphie chinoise, ce qui rejoint un thème qui vous est cher philosophiquement, qui est le thème du geste, un thème magnifique. Et vous êtes l'auteur donc de « Consolation et action, la spiritualité jésuite pour aujourd'hui ». À ma droite, ensuite, père Emmanuel-Marie Lefébure Dubus. Vous avez d'abord été agronome, puis ingénieur des eaux et forêts, avant d'entrer dans la vie religieuse en 1985, dans une commune de chanoines réguliers de Saint-Augustin qui s'est installée, après avoir été à Gap un moment, si je me souviens bien, à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce, près de Narbonne et de la célèbre abbaye de Fontfroide. Vous êtes docteur en théologie et depuis 2006, vous êtes abbé de cette communauté qui est à la fois discrète et rayonnante et dont on a entendu parler lors de la mort tragique d'Arnaud Beltrame. Vous êtes l'auteur de « Désir et unité, la spiritualité augustinienne pour aujourd'hui ». Et enfin, Michel Socquet, vous êtes laïc, d'ailleurs vous êtes le seul laïc de cette table ronde. Et non, mais ce serait intéressant de se demander, j'aurais envie de vous poser la question après, est-ce que c'est lié à la spiritualité franciscaine ou est-ce que c'est un pur hasard, pourquoi François Maillot a choisi un laïc pour représenter la spiritualité franciscaine. Quoi qu'il en soit, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous avez effectué une carrière professionnelle dans le domaine de la coopération internationale et interculturelle Et vous êtes membre d'une fraternité franciscaine séculière, ce qu'on appelait jadis le Tiers-Ordre. Et vous êtes également l'auteur d'une biographie qui a été remarquée, consacrée à Éloi Leclerc, qui est donc une grande figure franciscaine contemporaine, décédée il y a assez peu de temps. Et vous êtes l'auteur de « Émerveillement et minorité, la spiritualité franciscaine pour aujourd'hui ». Alors, assez parlé de mon côté, je voudrais vous proposer, pour que l'auditoire puisse prendre contact avec vous un peu charnellement, entendre votre voix et vous situer, et que vous nous disiez rapidement, en 5 minutes chacun, comment vous avez rencontré la spiritualité dont vous nous parlez aujourd'hui, comment ça s'est passé dans votre vie, les circonstances, voilà, comment vous y êtes engagé. Père Guillaume, vous voulez commencer ?
Oui. Merci beaucoup. Je remercie aussi François Maillot pour cette initiative qui est vraiment très belle. J'ai rencontré la spiritualité jésuite ou ignatienne, si on prend au sens plus large, d'Ignace de Loyola, de manière d'abord indirecte, puisque le premier contact, je le date de ma fréquentation assidue du scoutisme, qui en France a été fondé par un jésuite. Mais mon premier contact direct, ça a été de manière assez tardive, à l'âge de 26 ans, lorsque j'étais en coopération avec la délégation catholique pour la coopération à Madagascar. Et j'étais là-bas pour au service des missions étrangères de Paris, dans un diocèse où j'assurais un certain nombre de services. Et j'avais ce désir de servir, de participer à ma modeste mesure à servir ce peuple malgache. Et la situation a été telle que peu à peu, une crise assez profonde s'est installée. C'est-à-dire que la situation sur place était assez tendue au niveau ecclésial, au niveau politique. Moi-même, j'ai été atteint d'une grave crise de malaria qui m'a mis pendant un mois au lit. Et tout ça a fait que j'ai commencé par me poser quelques questions assez sérieuses. Et j'ai eu la chance d'avoir juste à côté de l'évêché où je travaillais un jésuite polonais qui m'a discrètement accompagné sans que je sache ce que c'était que l'accompagnement et qui m'a glissé le récit du pèlerin, qui est l'autobiographie d'Ignace de Loyola. Et je lisais aussi d'autres choses à cette occasion, mais ce récit-là m'a vraiment frappé. Et je me souviens très bien, c'était à l'approche de Pâques, Maître dit « Si les jésuites vivent encore de cette manière-là, c'est ça que je veux vivre ». Voilà, donc je suis ensuite revenu de coopération en demandant aux jésuites de m'accepter au noviciat. Et ils m'ont répondu « il faudra prendre un peu de temps pour discerner ». Voilà, donc j'ai pendant ce temps-là, je travaillais à EDF, j'étais ingénieur à l'époque, et j'ai donc discerné, accompagné par un jésuite sur ce chemin, et puis j'ai eu l'occasion à ce moment-là de vivre pendant une dizaine de jours les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, qui m'a fait, je dirais, plonger encore plus avant dans cette spiritualité. Voilà, et puis je vais fêter dans 3 jours les 20 ans de mon entrée au noviciat.
Père Emmanuel.
D'une manière qui peut paraître un petit peu décevante, je n'ai pas rencontré Augustin très vite. J'étais ingénieur, je travaillais, je cherchais néanmoins un lieu où me poser. Il me semblait que le Seigneur m'appelait. J'ai rencontré en fait une communauté d'hommes qui, de fait, vivait quelque chose, et donc je n'ai pas rencontré Augustin tout de suite. Petit à petit, dans les études que j'ai faites, j'ai rencontré Augustin, d'abord dans les confessions, ce qui paraît à peu près logique, comme un homme très vivant, très cordial, amoureux de l'amitié, amoureux de la beauté, tout ça me parlait beaucoup. Il apparaissait aussi, on le sait, comme très fragile, il n'avait pas peur de le dire, c'était pas un surhomme. Il était taillé dans le même bois que moi. Et donc ça me plaisait, j'ai beaucoup été touché très vite par la part énorme qu'il mettait dans le sens de la rencontre avec la miséricorde du Christ, et tout ça m'a parlé. Et puis ensuite, étape très importante pour moi, j'ai vraiment, de nouveau, comme dans une autre conversion, rencontré Augustin quand je suis devenu abbé, parce que je n'avais vraiment pas du tout envie d'être abbé. Et Augustin, il lui est arrivé une aventure un peu semblable. Il voulait être moine, tranquille, faire de la théologie et de la philosophie. Et puis, tout d'un coup, on l'a attrapé, c'est presque le mot, charnellement. Et on l'a choisi pour être prêtre, puis évêque. Et il est resté donc toujours religieux, mais il s'est dévoué. Il a été, on dirait, évêque malgré lui. Mais il s'est complètement donné à ses frères, complètement donné à sa mission. Il a vécu vraiment cela comme un don de soi, un servitium amoris, un service d'amour pour les autres, dans l'humilité, pas du tout dans la toute-puissance de celui qui prend les autres, qui les dirige et qui peut les manipuler, mais vraiment dans un service humble. Et ça, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait faire. Ça m'a beaucoup touché, faire comme le Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Augustin a fait ça toute sa vie. Et conjointement à ça, ce qui m'a frappé chez Augustin dans le trajet qu'il me fait faire avec lui, c'est que c'est un homme de joie, un homme de grande espérance, alors qu'il a vécu une époque extraordinairement troublée. Hein, c'est la fin de l'Empire romain, la chute de Rome, la décadence. On sait que à l'époque où Augustin enseigne, et ben à Carthage, il y a des tagueurs qui font des tags dans les toilettes, et ça choque beaucoup les gens. Voilà, une époque difficile, une époque d'instabilité, et Augustin nous parle d'espérance et de joie. Et voilà, c'est cela qui me parle, moi.
Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des gens qui sont assis dehors. Il y a 5 places là, juste devant. N'hésitez pas à venir. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir vous asseoir là, vous serez quand même mieux. Michel Socquet, est-ce que je peux vous poser la même question?
Oui, alors je suis désolé de ne pas être clair. Mais je vais peut-être y songer, mais peut-être un petit peu tard. Je ne sais pas si mon épouse serait d'accord. Enfin, on va étudier le problème. Bon, moi j'étais content de dire que j'ai découvert... que j'ai été vers la spiritualité franciscaine en faisant un détour de 6000 kilomètres, puisque j'ai rencontré en Éthiopie, mais alors avec Guillaume qui a dû en faire au moins 12 000 ou peut-être plus pour aller à Madagascar, 10 000, ça tombe un peu à l'eau. Mais enfin, ce détour m'a permis de rencontrer mon épouse, Brigitte, en Éthiopie, où nous avons travaillé plusieurs années ensemble. Et lorsque nous sommes revenus à Paris, elle m'a entraîné dans une fraternité franciscaine à laquelle elle appartenait. J'ai suivi sans discuter. Bon, j'étais croyant, voilà. Je suis arrivé dans cet ordre franciscain séculier, effectivement, c'est ce qu'on appelait auparavant le tiers ordre, avec un peu d'étonnement, avec, au fond, un mal fou à comprendre, à identifier cette spiritualité. Je ne voyais pas du tout en quoi elle était originale. J'avais une première impression sur les franciscains laïcs et clercs et religieux que je rencontrais, des gens, je dirais, sans esbrouffe, ça m'a beaucoup plu, des gens qui cherchent pas à se faire valoir, capables d'une certaine autodérision et d'une grande humilité, je trouve, des gens très engagés dans leur paroisse, dans les hôpitaux, dans les prisons, et puis une atmosphère de grande liberté. Et puis il y a eu l'influence de... certains frères franciscains qui nous ont suivis, notamment le frère Jean-Luc, qui a eu une grosse influence sur moi et sur les amis de la fraternité, et qui m'a permis un peu de rentrer dans cette spiritualité grâce aux écrits d'eux et sur François d'Assise et de ses successeurs. Mais je dois dire que pendant plusieurs décennies, j'ai suivi, j'étais un suiveur. J'étais le mauvais élève dans ma fraternité, le type qui ne prépare pas les réunions, qui vient un petit peu avec des pieds de plomb, même si je découvrais beaucoup de choses très intéressantes, mais je pense pas que ça me faisait vivre autant que mes amis de la fraternité. Et puis je crois que je me suis réveillé un petit peu il y a quelques années, à la faveur notamment d'un pèlerinage à Assise, mais aussi à la faveur de cette injonction amicale, de me secouer, qui m'est venu de certains amis éditeurs des éditions franciscaines, de Salvator, de Talandier, me disant ben, « on sait que tu aimes bien écrire, ça c'est pas faux, est-ce que tu pourrais travailler un petit peu sur Saint-François ?» Et là, effectivement, j'ai travaillé un petit peu plus et j'ai découvert avec émerveillement cet émerveillement de François et cet homme, comme le disait le frère Emmanuel-Marie, cet homme de joie et d'espérance, qui était Augustin, mais qui était aussi François d'Assise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis émerveillé par cette spiritualité et j'ai envie de la partager.
Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Je vais vous demander tout simplement, parce que donc cette collection a été très bien pensée par François Maillot, et chaque titre se compose de deux mots, comme vous l'avez compris, deux noms qui essaient de saisir le cœur de la spiritualité en question. Donc je vais vous demander à chacun tout simplement de nous dire le pourquoi de ces deux mots de votre titre. On continue dans le même ordre, puisqu'on a commencé comme ça, on va rythmer, voilà. Père Guilhem.
Consolation et action. Consolation, alors c'est un terme cher à Saint Ignace, et il m'est apparu comme au fondement de cette spiritualité assez rapidement, et ça a été très confirmé en 2014, à l'occasion d'une étape de la formation jésuite qui s'appelle le troisième an. C'est la dernière étape de la formation qui dure une quinzaine d'années, que j'ai faite au Sri Lanka et qu'on appelle l'école du cœur. C'est un moment où on reprend, on relit, on revient sur toutes les années de formation qu'on a vécues, les différentes expériences qu'on a vécues, et on y cherche la trace de Dieu. Et cette trace, elle a un nom, c'est la consolation. La consolation, c'est cette œuvre de l'esprit qui habite les corps de chacun de nous et les corps que nous constituons, et en particulier là le corps de la Compagnie de Jésus dans mon cas. Cette consolation, j'ai trouvé une belle confirmation dans l'adresse du pape François aux jésuites lors de la toute dernière congrégation générale, qui a commencé son adresse en disant « Ce que je vous demande, c'est de demander chaque matin la consolation. » Pour être des vrais missionnaires de la joie de Dieu, demander la consolation. Et ça rejoint une expression de Saint Ignace dans les exercices, quand on médite sur la résurrection, il nous invite à contempler le Christ ressuscité dans son office de consolation, comme font des amis envers d'autres amis. Voilà, donc cette consolation, c'est pour moi au fondement. Et cette consolation, elle se traduit par des moments de joie profonde, mais plus fondamentalement par une expérience peu à peu d'augmentation en soi, de l'espérance, de la foi et de l'amour. Et elle se manifeste dans les moments heureux, mais aussi à travers la compassion, la présence, l'expérience de la présence du Christ aussi dans sa passion à nos côtés. Et puis cette consolation, compassion porte à l'action. L'action, c'est comment cet amour qui fait corps envoie, se diffuse. Là, ça rejoint la manière dont cet esprit nous met en Église et nous met dans le monde. Et cette action, c'est d'abord l'action de Dieu dans le monde, qu'il nous donne de voir, d'entendre dans le monde, dans nos vies, dans l'Église, et à laquelle il nous invite à nous joindre, chacun selon nos charismes. Voilà. Alors, consolation et action, ça rejoint deux expressions qui sont assez connues dans les mondes ignatiens. La première expression, on la trouve au début des exercices spirituels, c'est « l'homme est créé pour louer et servir ». Louer et servir, la louange et le service. Et puis une autre expression assez célèbre, c'est « les jésuites sont des contemplatifs dans l'action ». Contemplatif au sens où ce que nous contemplons, c'est l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, et c'est pour ça qu'elle est dans l'action. Voilà. Alors je terminerai par là. Il y a une joie jésuite qui est peut-être moins perceptible que, je sais pas, la joie franciscaine. Voilà. Quoique, il y a des jésuites qui sont musiciens, poètes, comme Didier Rimaud, danseurs aussi. Il y a un jésuite indien qui est un danseur. Mais je crois que la joie qui se diffuse dans la consolation, c'est plutôt de l'ordre d'une joie qui se traduit en détermination. Une détermination très forte de répondre oui aux appels entendus de Dieu et que l'on choisit. Voilà. Alors il y a des figures que je cite dans le livre, comme le père Aroupé, le père Sérac. Voilà, mes consolations et actions, c'est, je crois, vraiment deux mots qui sont au cœur de la spiritualité ignatienne.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Père Emmanuel.
Tout d'abord, je voudrais régler mes comptes avec François Maillot. Quand il a demandé que notre titre d'ouvrage soit résumé par deux mots, j'ai pensé que c'était très très mal de faire une demande comme ça. Enfermer un auteur comme Augustin qui a écrit des dizaines de milliers de pages en deux mots, je trouvais que c'était scandaleux. Et finalement, c'était une très bonne idée, merci François, de chercher des notes dominantes dans la vie d'un homme comme Augustin, dans sa pensée, dans sa spiritualité. Alors, désir et unité, parce que peut-être ça correspond à deux pôles très forts de la vie d'Augustin, le pôle individuel, le désir, et le plus particulièrement le pôle communautaire, ecclésial, l'unité. Le désir parce que en Augustin, tout lecteur, auditeur, remarquera qu'Augustin est un homme de désir, passionné, un homme avide, un homme gourmand, même gourmand de bonheur et de jouissance, et au départ mauvaise, détournée de sa fin. Et en se convertissant, Augustin est resté un homme de désir, de passion, de bonheur, de gourmandise divine. Le dynamisme qui l'animait, qui était faussé, gauchi, eh bien, n'est pas mort, ne s'est pas éteint avec sa conversion, au contraire. Il est évangélisé, il est transfiguré, il est converti, rectifié, il est christifié, on pourrait dire. Il est aussi intériorisé. On passe des sens et des passions, des désirs extérieurs, le désir du toucher, le désir de voir, à des goûts, des sens plus intérieurs, voir Dieu, et toucher les choses de Dieu. Il nous apprend, Augustin nous apprend que le christianisme est vraiment une religion dynamique, de tension vers Dieu, parce que Dieu est désireux de nous. Nous sommes happés par lui, attirés par lui, parce que Dieu est attiré par l'homme, par son cœur, par son amour. Et notre religion doit être une religion donc du désir et du bonheur, et que plus nous allons vers lui, plus nous allons vers Dieu, plus le désir peut grandir, un peu comme un corps qui tombe, s'accélère à mesure qu'elle s'approche du centre. Ce désir de bonheur doit être au cœur de nos vies, au cœur de notre spiritualité. Et Augustin a vraiment, et ça inspirera beaucoup saint Thomas d'Aquin, hein, bien sûr, il a proposé une morale du bonheur. Nous sommes faits pour le bonheur. La morale chrétienne, l'éthique chrétienne n'est pas une éthique, une morale qui vise à casser, à briser, à émonder. Il faut émonder et casser ce qui est mauvais, mais parce que pour atteindre plus sûrement la joie et le bonheur. Le père Danielou disait que le désir est plus puissant que le devoir. À des religions, à des morales du devoir, Augustin préférait une morale du bonheur, être attiré par la lumière. Notre monde est un monde qui est gourmand, qui est avide, qui est peut-être aussi hédoniste, hein, mais Augustin va nous dire, on ne vint le plaisir que par un autre plaisir. On ne vint l'éros mauvais que par un autre éros, avec un E majuscule, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et tout ça reste dynamique, reste puissant, il ne casse pas l'homme, il l'épanouit. Augustin montre qu'un chrétien est un homme qui doit s'épanouir dans la joie. Parfois, ça fait pleurer au début. Mais le terme est la joie et le bonheur. Ensuite, l'unité. Bien sûr, il y a un aspect intérieur aussi. Augustin est un homme qui commence ses confessions, hein, vous savez, en disant que notre cœur est inquiet et tant qu'il ne se repose en toi, Seigneur. Et l'inquiétude chez Augustin, c'est une forme de déséquilibre. Nous ne sommes pas encore en équilibre. Nous serons en équilibre, nous serons en paix, dans la quiesse, qu'au terme. Et d'ici là, il y a quelque chose qui n'est pas unifié en nous. Et notre religion, le christianisme, la vie spirituelle est là pour nous unifier. Mais l'aspect que je voulais exprimer dans ce mot unité, qui aurait pu être aussi communion, mais unité va bien, c'est que la conversion d'Augustin a été très vite une conversion de l'égoïsme à la communauté. La conversion d'Augustin est vraiment une conversion à l'église communion. Cet homme était un homme d'amitié, de profonde amitié, et il est resté un homme d'amitié. Son goût pour l'amitié n'est pas mort avec sa conversion, au contraire. Parce que pour lui, l'amitié dans le Christ, elle unifie l'homme dans la réponse avec l'ami, dans le dialogue avec l'ami. Je vais plus sûrement vers mon bien, puisque Dieu est dans la Trinité, une unité de personnes. L'amitié devient communion dans le Christ. Et c'est cela qu'il a voulu faire avec des amis. D'abord une communauté de type un peu philosophique à Cassis-Siakom, au nord de Milan. Et puis ensuite retourner dans son pays en Afrique, une communauté qui a d'abord été une communauté de moines, séparée du monde, mais d'amis. Il parle vraiment d'amitié. Et lorsqu'il est devenu évêque, il a refondé encore une communauté dans son évêché pour vivre avec ses frères qui étaient des prêtres. Mais vraiment à la fois un service, mais aussi une amitié. Et ça marque beaucoup notre vie religieuse, notre vie commune en spiritualité augustinienne. Ensuite, il y a une dimension qu'on ne peut pas gommer, qui a fait de lui un chantre de l'unité, c'est que Augustin est né en Afrique et a vécu comme évêque en Afrique au moment d'un schisme extrêmement douloureux, le schisme des donatistes, qui a brisé en deux vraiment la vie ecclésiale de l'Afrique du Nord, au point qu'il y avait dans chaque ville deux évêques, un évêque catholique, un évêque donatiste, un évêque en communion avec le pape et avec Rome et un évêque séparé. Dans chaque famille, dit Augustin, on voit des membres séparés par le schisme. Augustin a vécu cela comme tous les autres de manière douloureuse, d'abord parce que c'était un schisme violent. Il a failli se faire assassiner plusieurs fois. Et il l'a vécu avec beaucoup de hauteur, sans mesquinerie. Il a placé le débat très haut, au point que sa doctrine de l'unité de l'Église est presque devenue, dit le père Congar, la doctrine de l'Église catholique sur l'unité. Parce qu'il l'a placé dans le mystère du Christ. Il s'est élevé au-dessus des querelles de parti, des mesquineries aussi qui peuvent se joindre pour se centrer sur le Christ. Et il dit bien, vous êtes du Christ, vous êtes au Christ, vous êtes Christ avec un S, vous êtes tous Christ dans le Christ. Il a vraiment développé une théologie du Christus totus, du Christ total, l'Église, qui n'est parfaite que si elle est corps et tête. La tête c'est le Christ, les membres c'est nous-mêmes. Et dit-il, le Christ ne sera jamais parfait tant que la tête ne sera pas réunie avec ses membres. Donc on peut comprendre que dans ce contexte théologique, le schisme, la désunion, soit pour Augustin un problème fondamental de la vie chrétienne. Et il me semble que dans des temps comme les nôtres, ce doit nous parler. Il a vécu des temps où les clercs, les prêtres n'étaient pas forcément meilleurs que maintenant, et même il a vécu cela avec beaucoup de souffrance et de douleur. Et il dit dans plusieurs lettres, hein, dans plusieurs textes, voilà, vous avez de mauvais pasteurs, vous avez de mauvais maîtres, ne faites pas comme eux, mais ne quittez jamais l'Église. Ne quittez jamais l'Église, on comprend ce que ça veut dire, hein, aujourd'hui, nous savons bien qu'il y a des prêtres pécheurs, des mauvais prêtres, de mauvais pasteurs. Il parle même de mauvais évêques. Ben, vous ne devez jamais quitter le bercail. Voilà. Je crois que, pour cela, Augustin me parle beaucoup, nous parle beaucoup. Désir, une tension qui est dynamique, qui est belle, qui est toujours joyeuse, qui est dynamisante, qui est puissante. Et l'unité, parce qu'elle est la fin, le but dans lequel nous nous retrouverons, ce qu'on appelle la communion des saints.
Merci beaucoup, Père Emmanuel.
Donc je vois une sorte de convergence, même si c'est peut-être un peu rapide, entre intérieur et extérieur, en quelque sorte, consolation et action qui est là dans la diffusion, désir intérieur de Dieu, puis unité ecclésiale extérieure. Est-ce que Michel Socquet, émerveillement et minorité, ça répond aussi à un...
Oui, je crois qu'on n'en a pas fini avec les convergences, et je m'en réjouis, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors effectivement, exercice difficile, hein, de cet exercice des deux mots. Moi j'ai choisi émerveillement d'abord parce que, au fond, la spiritualité franciscaine, à la suite d'un François d'Assise inlassablement émerveillé, est une spiritualité de l'émerveillement. On connaît pas trop mal, même assez bien, le Cantique des créatures, Laudato si, etc. Cantique de Frère Soleil qui exprime cet émerveillement devant la création, mais qui n'est un émerveillement qui n'est pas une contemplation béate. Chez François, c'est plutôt une expérience spirituelle, une adoration, un élan mystique, une sorte de vibration intérieure avec la création, avec cette création qui est pour lui une famille, frère, soleil, sœur, lune, etc. Avec la grandeur de Dieu, avec son amour débordant. François a été fasciné par le mystère de la Trinité, cet amour premier du Père qui se transmet au Fils et qui se transmet ensuite par l'Esprit aux hommes. Et fasciné aussi par l'Eucharistie, l'humilité de Dieu. Cet émerveillement devant l'humilité de celui qui se donne si simplement tous les jours sous la forme d'une hostie. Cet émerveillement chez François, c'est ça qui est peut-être un peu étonnant, mais naît parfois de la nuit. Il faut se rappeler que le fameux Cantique de Frère Soleil a été composé peu avant sa mort, à un moment donné où François était pratiquement aveugle et donc ne voyait pas le soleil qu'il saluait. Donc c'est un émerveillement qui naît de la nuit, mais qui naît de la nuit dans une certaine une grande joie. François est un poète qui s'émerveille. On a dit que c'était un pauvre qui chante. On a parlé de jongleur de Dieu. Et un homme d'espérance et d'optimisme. Pour moi, la spiritualité franciscaine est une spiritualité qui promeut le devoir d'émerveillement et le devoir d'optimisme face au désenchantement, au cynisme, au déclinisme qui circule un petit peu partout, qui circulait déjà à son époque, etc. Tout fout le camp, on va dans le mur, etc. François nous dit non, il y a l'amour divin. Et cet amour divin, il nous aide à voir les choses de façon plus positive. Alors évidemment, on ne va pas considérer comme non important les drames de ce siècle, et on va s'engager, et on va être là aussi. Je pense que la spiritualité franciscaine est une spiritualité comme la spiritualité jésuite de l'action. On va s'engager dans un certain nombre d'actions sur les problèmes de société, mais dans un esprit d'espérance. Cet émerveillement, il est aussi chez François une compréhension, une intelligence intelligence de Dieu et une intelligence de l'autre. L'intelligence de Dieu, c'est l'intelligence, c'est de compréhension difficile, mais du mystère de la Trinité et de l'Eucharistie. Et c'est aussi une intelligence plus horizontale des hommes, une spiritualité de la rencontre, de l'ouverture à l'autre, et notamment de l'ouverture à l'autre différent, l'émerveillement devant l'autre différent. Alors il y a un certain nombre d'histoires dans la biographie de Saint François qu'on n'a pas le temps de détailler ici, on le fera peut-être tout à l'heure, autour de la rencontre avec les lépreux, autour du contact avec les brigands, avec l'eau de Gubbio, etc. Il y a eu aussi cette rencontre très importante et très actuelle, très importante pour nous aujourd'hui, de ce François d'Assise qui, au péril de sa vie, s'en va en pleine croisade rencontrer le sultan à Damiette pour soit gagner le martyr, soit convertir le sultan. Et puis ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et on a assisté à un moment de dialogue et d'ouverture mutuelle absolument extraordinaire, à une époque où il n'était absolument pas question de dialoguer avec les musulmans, et qui, je crois, peut nous apprendre beaucoup aujourd'hui. Il y a 800 ans de ça, et nous fêtons cette année cet anniversaire. Donc cette idée, et ça encore... Je crois que François nous dit beaucoup de choses pour aujourd'hui et pour nous aujourd'hui. L'autre n'est pas une galère, ça n'est pas un problème, ou ce n'est pas qu'un problème, parce que ça peut l'être de temps en temps, effectivement, mais c'est fondamentalement une source d'émerveillement. Alors la minorité. Bon, Moi, je suis beaucoup tenu à ce terme de minorité. On m'a beaucoup dit que peut-être, pour le grand public, c'était compliqué à comprendre. C'est minorité quoi ? Minorité ethnique, minorité sexuelle, de quoi tu parles, etc. Il vaudrait mieux parler d'humilité. Moi, je pense que la minorité apporte quelque chose de très spécifique de la spiritualité franciscaine qu'il faut expliquer très brièvement. On sait que la spiritualité franciscaine est une spiritualité de la pauvreté. François était appelé le pauvrello, le petit pauvre. Il a été très pauvre, en effet, et très radical. Il avait, à l'égard de l'argent, une attitude plus que radicale, puisque il appelait l'argent... d'un qualificatif que je ne peux pas prononcer ici dans cette assemblée, bien entendu, mais enfin qui était quand même dans ses biographies et dans ses écrits plutôt très très clair, et à un évêque qui lui disait, mais enfin attendez, vous pouvez pas rester comme ça sans aucun bien, comment vous faites, etc. Et sa réponse a été, mais monseigneur, si nous avions des biens, si nous avions des terres, il nous faudrait des armes pour les défendre. Non, le bien fondamental, le souverain bien, pour François d'Assise, c'est Dieu. Et donc, se désapproprier, c'est devenir libre pour Dieu. C'est pas très facile pour nous aujourd'hui, bien entendu. On a plutôt tendance à parler de sobriété plutôt que de pauvreté. C'est vrai que les frères du premier et du second ordre, je trouve, par rapport à leurs homologues d'autres pays européens, sont plutôt pauvres. C'est vrai aussi que dans la fraternité séculière, on n'est pas les uns et les autres particulièrement pauvres. Mais par contre, je pense qu'il y a chez les laïcs franciscains un souci de considérer l'argent comme une responsabilité. Il ne nous appartient pas, nous en sommes gestionnaires, il faut qu'il soit utile et bien utilisé. Mais la pauvreté franciscaine n'est pas que matérielle. Elle réside aussi, peut-être et surtout, dans l'esprit de minorité. François a voulu que ses frères soient appelés frères mineurs. L'adjectif franciscain n'étant venu que bien après, mineur, c'est-à-dire au service des autres et non au service d'eux-mêmes. Donc cette idée de désappropriation, de lâcher prise, de son ego, de son statut social, de son pouvoir, est complètement essentielle dans la spiritualité franciscaine. Pas de recherche obsessionnelle de la reconnaissance. Alors, il s'agit pas d'être, selon l'expression d'un franciscain, Michel Lubeau, ni minus ni maso, il s'agit avec la minorité de s'épurer, et de s'épurer dans une certaine humilité. Pour François, l'humilité est très importante aussi, dans son sens étymologique, hein, de humus, la terre. Il s'agit pas de s'auto-dévaloriser, mais de reconnaître que né de la terre par la volonté divine, tout en nous trouve son origine dans l'amour du Père Créateur, sans qui nous ne serions rien et nous ne pourrions rien. Alors cette minorité aussi, et là nous rejoignons évidemment Augustin, elle ne peut pas être vécue seule, et l'idée de la communauté, de la fraternité est très importante, non seulement comme une modalité de vie, mais aussi comme un souffle, comme un esprit, une valeur qui est liée à l'émerveillement devant nos frères, et qui est liée aussi à la minorité, cette idée du service mutuel qui est très important. Et ça ne se vit pas seul, ça se vit en fraternité, dans cet esprit où aucun ne va dominer les autres et on n'a pas de hiérarchie. La responsabilité des uns et des autres, c'est un service où on refuse de mettre en catégorie les gens et où on essaye de faire en sorte que cette fraternité soit en acte, en action, avec les actions de solidarité. Tout ça, me direz-vous, c'est dans l'Évangile, tout simplement. Mais c'est vrai que la spiritualité franciscaine a un tropisme un peu particulier sur l'émerveillement et la minorité, et la louange.
Merci beaucoup, Michel Socquet. Je vous propose maintenant peut-être pour faire ressortir un peu les arêtes ou la spécificité. Je trouve que c'était intéressant que vous puissiez dialoguer un petit peu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses, des questions que vous aimeriez poser ou des remarques que vous aimeriez faire à un autre intervenant, ou des similitudes que vous avez trouvées assez fortes, enfin, voilà, des choses qui nous permettent de mettre un peu en contraste ces différents ouvrages. Est-ce que... Oui, Père Guillaume,
vous voulez... Oui, oui. Je vais surtout faire état de connivence, de consonance avec la figure de François. Et puis, j'aurai deux questions, dont une qui rejoindra la spiritualité d'Augustin. pour Ignace, la figure de François, elle est là dès l'origine de sa conversion. Il le cite explicitement. Et puis, par exemple, Xavier Léon Dufour, qui a fait une biographie de François-Xavier, a écrit « Un jésuite ne peut demeurer fidèle à l'esprit d'Ignace que s'il éprouve une sympathie spontanée pour le poverello ». Et je crois que c'est très vrai. Il y a quelque chose de très profond, de consonance, et on le sent à de multiples endroits. Par exemple, dans les exercices spirituels, l'attitude que le retraitant est invité à prendre à Noël, d'être un petit serviteur à la crèche, cette humilité, ce qu'il dit aussi des contemplations au moment de la passion, de cette divinité qui se cache, de cette humilité de Dieu. Tout ce qui est autour aussi chez Ignace, ce qu'il appelle l'indifférence, qui est très proche du détachement de François, en vue du service. Voilà. Après, j'aurais deux questions. Une première sur plutôt dans le domaine de l'écologie. De fait, François nous invite à l'émerveillement devant la création, devant la nature. Comment est-ce que sa spiritualité peut nous aider aujourd'hui particulièrement dans la situation dans laquelle nous voyons notre terre, notre environnement qui souffre beaucoup, qui est piétiné, frappé, certains diraient frappé très gravement. Comment il peut nous aider là? Et puis une autre question tout à fait différente, vous y avez fait allusion tout au début, sur le fait que nous étions deux prêtres et puis un laïc. Dans les débats aujourd'hui, la manière dont nous débattons avec le cléricalisme, comment est-ce que la spiritualité de François peut nous aider à comprendre autrement le corps que nous formons en Église? Parce que aussi bien Ignace qu'Augustin ont eu cette expérience d'un amour du Christ qui les a poussés à accepter l'un et l'autre l'ordination sacerdotale. Et Ignace a conçu les jésuites comme un corps sacerdotal, même s'il y a aussi des frères chez les jésuites, pas très nombreux, il y en a quelques-uns, voilà. Donc c'est une deuxième question un peu plus...
Michel, c'est OK.
Heureusement qu'il y a pas mal de franciscains et de capucins dans la salle, parce que je crois que l'exercice, c'est que ce soit moi pour l'instant qui réponde, mais j'espère qu'après, ils vont compléter largement ou me contredire éventuellement. Sur l'écologie, bon, ce qui est bien, c'est que le pape François nous a déjà bien avancé, aidé à avancer avec son encyclique et son idée d'une écologie globale. Ça, je crois que c'est très très important. Enfin, tout est dans cette encyclique qui est effectivement liée beaucoup à François, mais pas uniquement. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que on a souvent une image de François un peu erronée. L'homme qui parle aux oiseaux, qui fait remuer la queue des loups féroces, etc. Ça, c'est les Fioretti, l'image. François n'est pas... C'est effectivement un homme émerveillé, mais il n'est pas amoureux de la nature, il est amoureux de la création. Et donc, demande le respect de ce que Dieu a créé. C'est un petit peu sa feuille de route. Et c'est le terme écologie, je ne suis pas sûr qu'il aille finalement si bien que ça avec la spiritualité franciscaine, à moins qu'effectivement on le prenne dans son sens global, d'écologie globale, y compris sociale, etc. Sur le cléricalisme, à nouveau que je ne sois pas seul, d'abord François n'était pas prêtre, il était diacre, simplement. Donc il était clerc, mais il n'était pas prêtre, il était diacre. Et il avait, en entendant le frère Père Emmanuel Marie parler tout à l'heure, je retrouve un petit peu de cette posture du... on peut critiquer l'Église, c'est pas forcément qu'il faille la quitter, donc c'est toujours le grand débat. Il y a dans les écrits de François des textes très très précis là-dessus. Il dit je demande que l'on respecte et qu'on aime le plus vil des prêtres, le plus pécheur de tous les prêtres, parce que c'est le prêtre qui nous amène, enfin qui fait l'intermédiation avec le corps du Christ. Et pour ça, je demande qu'on le respecte. Donc ça aide à réfléchir, et surtout son argument qui était très fort, c'était critiquons tout ce qui se passe dans l'Église, mais enfin lui il le faisait d'une façon extrêmement douce, par l'exemple, mais commençons par nous convertir nous-mêmes. Et il a même d'ailleurs des paroles assez étonnantes par rapport aux gens, dit-il, qui s'habillent bien, qui mangent bien. Moi je veux que les frères soient vêtus d'habits rapiécés, etc., mais je leur interdis, c'est dans une de ces deux règles, je leur interdis de critiquer ces gens-là, qu'ils commencent par se convertir eux-mêmes.
Merci pour cette très belle réponse, très forte, très spirituelle. Père Emmanuel, je ne sais pas, est-ce que vous avez une question à poser, une réaction est-ce que vous voyez quelque chose justement qui ne correspond pas du tout à la vocation augustinienne chez l'un ou chez l'autre? Ce serait aussi intéressant de...
Oui, il y a des nuances. Je pense qu'on a été tous les trois frappés, me semble-t-il, on en a déjà parlé, par le fait de trouver tant de consonance entre nos différentes vocations. Bien sûr, elles se vivent différemment. Un chanoine qui vit dans une abbaye, dans un lieu, qui doit être un pasteur dans un lieu, comme une vigne qui s'enracine dans son terroir, est différent d'une communauté jésuite, où on a sa valise prête à partir, je pense, pour aller à l'autre bout du monde, voilà, beaucoup plus facilement, alors que nous sommes, nous, plus attachés à la stabilité. Et c'est deux manières de vivre le don de soi aux autres. L'un est plus dans le temps long, quelque part, dans un lieu, et l'autre peut-être plus disponible, je vois bien, avec nos communautés. Mais par contre, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous sommes trois spiritualités qui vivent contemplation et action, consolation et action, émerveillement et action, et ça nous rapproche énormément, et je crois que c'est ce qu'il y a de très beau. C'est se dire que, vous pouvez nuancer ce que je vais dire, mais que le Christ contemplé, nous avons envie de le donner, et que plus nous le contemplons, plus nous le regardons, plus nous essayons de le faire nôtre dans notre vie et dans notre communauté, plus nous pouvons le rayonner. Je sais
pas si... Non, mais... Trois ordres mixtes, hein, ce qu'on appelle. Michel Socquet ou...
J'en rajoute un petit peu sur ce qui a déjà été dit sur les convergences. Moi, ça m'a vraiment frappé. Hein, c'est notamment avec la spiritualité augustinienne, mais aussi avec la spiritualité jésuite. D'abord, trois hommes, Augustin, Ignace et François, qui ont commencé leur vie par une jeunesse débridée et qui se sont convertis, et d'où on peut peut-être déduire que les spiritualités sont d'autant plus fortes qu'elles sont le fruit de conversions fortes. Ça m'a frappé quand même le parcours de vie de ces trois hommes. Comme François, Augustin est un homme de louange et d'action de grâce, et en lisant le livre des autres auteurs, je me suis aperçu que le mot d'action de grâce, j'avais très très peu utilisé, sinon jamais, dans mes livres, ça me pose question. On confesserait le plus vite possible. Et puis cette idée de la nuit à la lumière, très très importante. Vous disiez, Père Emmanuel-Marie, que le mot de lumière et d'illumination avait été utilisé 3000 fois dans les œuvres d'Augustin. C'est quand même très important, très impressionnant, et ça correspond bien à François aussi. Peut-être cette idée de, chez Ignace, ayez toujours les yeux tournés vers l'objet supérieur qui est Jésus-Christ. Moi, ça me fait penser à la louange et à ce que j'appelle l'anti-selfie. Selfie, je me regarde. Est-ce que je peux changer pour voir l'autre? Il y a un passage très étonnant dans « Sagesse d'un pauvre » d'Éloi Leclerc, où un des frères de François se lamente de ne pas voir la pureté de l'eau qui coule à ses pieds, etc. Et François lui dit « Mais attends, t'es pas pur, t'es pas parfait, personne ne l'est, t'y arriveras jamais, arrête de te regarder le nombril et regarde Dieu. Dieu est, cela suffit. » Et je trouve que ça correspond bien à cette expression d'Ignace.
Avant de passer la parole à l'auditoire, j'aimerais vous poser une dernière question, peut-être relative au mensuel Prier, au magazine dont je m'occupe, mais pour aussi incarner, un peu concrétiser vos spiritualités, est-ce que vous pourriez chacun nous parler, ou alors nous dire que ce n'est pas la question, mais d'un exercice spirituel qui caractérise un peu votre famille spirituelle? Alors pour vous, ça va être facile, Père Guillaume.
Facile, je sais pas. oui, puisque ce qu'on appelle les exercices spirituels, c'est plus facile de les pratiquer que d'en parler, puisque ce sont des exercices, hein, c'est comme pour la gymnastique, voilà, ça passe par l'exercice. Néanmoins, je parlerai de deux exercices qui vont ensemble, c'est l'exercice de l'oraison, et l'exercice qui a plusieurs noms, qui s'appelle relecture, qui s'appelle examen, qui s'appelle prière d'alliance, voilà. Disons, c'est l'exercice qu'on peut faire le matin et l'exercice qu'on peut faire le soir. Donc l'exercice d'oraison, pour Ignace de Loyola, c'est un peu le cœur des exercices spirituels, c'est cette mise à l'écart, ce temps pris pour se disposer à écouter. Et alors je me souviens d'une fois où j'étais avec des jeunes que j'accompagnais dans des exercices spirituels dans une abbaye bénédictine. Et puis, je me souviens, c'était une abbaye de femmes. Et une des sœurs, pendant qu'une des retraitantes faisait le jardinage, s'est approchée d'elle pour parler un peu, voilà, ce qu'elle était en train de vivre. Et puis la retraitante lui a fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas parler. Et alors la religieuse dit « Ah oui, c'est le silence jésuite !» Voilà, donc les exercices spirituels durent un temps limité, c'est vrai, ça dure quelques jours, mais c'est un temps très concentré, où beaucoup de moyens sont pris pour favoriser cette écoute de la parole à travers la méditation et la contemplation des Écritures, avec un accompagnement. Ça, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que écouter la parole de Dieu, ça engage profondément et ça touche des dimensions en nous très profondes qui, à certains moments, demandent qu'on ait de l'aide. On est de l'aide de personnes autour de nous pour nous aider à avancer. Voilà. C'est aussi la dimension ecclésiale dans les exercices. La visée étant, à travers cette méditation et cette contemplation, de demander à Dieu la grâce, alors la grâce principalement de connaître de plus en plus le Christ pour le suivre, pour l'aimer jusqu'au bout. D'avoir cette prise de conscience de plus en plus profonde de cet amour qui conduit vers le Père, qui est le fameux anti-selfie que Michel dont Michel parlait, voilà. Alors je rentre pas plus dans les détails sur la manière de faire, qui est assez cadrée hein, chez Ignace de Loyola, mais c'est un cadre qui est au service de la liberté, puisque c'est un cadre qui est proposé pour qu'ensuite chaque retraitant puisse choisir ce qui lui convient. Voilà. Mais encore une fois, c'est une très très belle expérience. L'autre exercice dont je voudrais parler, c'est l'examen. C'est un temps de prière que l'on prend. Alors, on peut le prendre en milieu de journée et en fin de journée pour se mettre devant Dieu et lui demander la grâce de voir la manière dont il a été à l'œuvre dans ma vie, pendant les quelques heures que nous venons de passer ensemble, de manière à resserrer chaque jour davantage. Ça, c'est un mot de la spiritualité ignatienne aussi, le davantage, de resserrer encore davantage la qualité de relation avec le Seigneur. Donc, c'est un temps pour accueillir, demander, accueillir dans la prière, de pouvoir voir, considérer, contempler le passage de Dieu dans nos vies. Alors c'est pas un exercice comme on a pu le voir déjà dans l'Antiquité, qui est un exercice un peu de morale où on essaye de voir si on a fait des choses bien, si on a fait des choses moins bien. Bon, ça c'est très très bien, mais c'est pas cet exercice-là. Hein. C'est vraiment de demander une grâce et d'écouter ensuite la manière dont Dieu nous fait la grâce de nous montrer comment il était là, comment nous avons été avec lui. Et puis aussi, c'est une autre partie de l'exercice, comment nous avons été plus résistants, plus lointains, voilà, pour avancer. Voilà, la visée de ces exercices étant de rentrer en conversation avec Dieu, et rentrant en conversation avec Dieu, de vivre aussi cette conversation à ce niveau de qualité avec nos frères humains, puisqu'ils sont tous des fils et des filles de Dieu, et d'avancer ensemble dans cette construction de l'Église dont les limites sont à la mesure du cœur de Dieu. Voilà, c'est toujours à discerner.
Merci beaucoup, Père Guilhem. Père Emmanuel-Marie, vous nous parlez de l'office, non ? Bien que ce soit bien plus qu'un exercice spirituel.
Oui, c'est peut-être là où vous demandiez s'il y avait des nuances ou des divergences. La spiritualité augustinienne, quant à la prière, va pas proposer d'exercice. À ma connaissance, Augustin laisse les âmes extrêmement libres. Il a jamais proposé un canevas spécial. J'ai quand même repéré quand même quelques points qui me paraissent assez fondamentaux. Le premier, c'est que Augustin est un peu imprégné au départ de sa formation platonicienne, a vraiment perçu que pour aller vers Dieu, il fallait d'abord retourner dans son cœur, dans son propre cœur. Il le dit très souvent, hein, reviens à ton cœur. Dieu n'est jamais aussi proche de toi que quand tu rentres dans ton cœur. Alors rentre d'abord dans ton cœur et ainsi tu pourras aller avec Dieu. Donc une démarche d'intériorité qui aura beaucoup marqué, je pense, toute la spiritualité de l'Église, des siècles qui auront succédé à Augustin. Avec cette manière qu'il a de très souvent nous dire « Ton âme est comme un temple, ton âme est un sanctuaire, ton âme est un temple, rentre, réveille à toi, reviens à ton cœur. » Ensuite, quant à la prière, il a beaucoup insisté sur deux axes, je pense, la demande d'un côté et la louange et l'action de grâce. La demande, il faut demander, la prière est là pour nous faire demander des choses et pour ajuster notre demande, au fur et à mesure de la persévérance dans la prière, ajuster notre demande à ce que Dieu veut vraiment nous donner. Ce qui finalement va peut-être arriver au fait qu'on ne demandait pas ce qu'on devait demander. Et souvent il dit, vous demandez des choses, vous demandez des biens matériels, il s'adresse à des gens d'Hippone, c'est-à-dire des marins pêcheurs, des gens de la campagne, des gens très simples, hein. Vous demandez des succès, vous demandez de l'argent, vous demandez même des vertus, mais essayez de demander Dieu à Dieu. Demandez Dieu. Il y a trop peu d'hommes qui demandent simplement Dieu, qui arrivent à demander Dieu au Seigneur. Et puis la louange et l'émerveillement, on en a plusieurs fois parlé ici. Et Augustin est un amoureux de la création, un amoureux de ce que Dieu a fait, amoureux des beautés sensibles et amoureux des beautés invisibles. Il demande la louange et il répète souvent que l'action de grâce est vraiment ce qu'il y a de plus caractéristique aux chrétiens. Le chrétien est un homme de l'action de grâce. On pourrait même vous appeler, mes frères, des Deo Gratias, disait-il. Voilà. Parce que c'est la manière la plus belle par laquelle vous pouvez répondre à ce que Dieu vous a donné, puisque tout est grâce et que vous ne faites rien sans la grâce. L'action de grâce, c'est vraiment le chrétien dans tout son épanouissement, dans sa fleur et dans son fruit. Et puis, vous parliez de l'office, je terminerai par là. Oui, la spiritualité d'Augustin est vraiment une spiritualité ecclésiale. Elle est donc liturgique. Augustin, tous les jours, est allé à sa basilique et tous les jours, il commente l'évangile ou il commente les psaumes en particulier. Il a énormément commenté les psaumes, on en a gardé des traces superbes. Et il aime cela parce qu'il y voit à la fois la manière de nous faire rentrer ensemble dans le mystère du Christ qui prie et de nous faire prier ensemble. Il nous fait prier ensemble à l'Église. Il commente l'Alléluia, il commente l'Amen, pour que nous le disions ensemble, pour que le « nous » de l'Église devienne le « je » de ma prière. C'est une âme donc qui trouve dans la liturgie l'objectivité de sa prière. Il a souvent exprimé que le Christ avait prié les psaumes. C'est quand même beau de percevoir cela. Le Christ a prié tous les psaumes et il les a même assumés. Quand les psaumes parlent de tristesse, d'amertume, c'est le Christ qui a vécu cela et qui nous fait rentrer dans sa propre prière pour la purifier, la grandir. Et lorsque le Christ parle de le psaume parle de péché, de misère, eh bien le Christ l'a assumé en tant qu'il est le chef, la tête de son corps spirituel dont nous sommes les membres. Et donc les psaumes en particulier et toute la liturgie, c'est la manière que nous avons de rentrer dans la prière du Christ à son Père et de nous ramener vers la Trinité en priant avec lui ensemble.
Amen. Merci beaucoup, Père Emmanuel Marie. Michel ?
Oui, moi je vais faire marcher mon anti-selfie pour le diriger tout à l'heure vers nos amis frères franciscains. Il y a un missel franciscain, il y a un office franciscain, il y a un certain nombre de choses qui sont établies et qui sont suivies. Ceci dit, dans l'ordre franciscain séculier, ça n'est plus toujours pratiqué, ou en tout cas plus tellement de la même façon. Mais il y a un esprit, je crois, de prière, qui est caractérisé par une grande liberté. Il y a un tout petit bout d'écrit de François qui s'appelle le billet à frère Léon et qui est considéré comme une sorte de charte de la liberté. Frère Léon, qui était un frère très proche de François, lui demande bon, qu'est-ce que je dois faire, comment je fais dans telle ou telle circonstance. Et François lui dit, quelle que soit la manière dont tu sens que Dieu te demande d'agir, de te comporter, fais-le. Et si vraiment tu as des doutes, reviens me voir. Mais pour l'instant, voilà, va, assume ta liberté. Ça, je crois que c'est très important. Et donc, il y a 1000 modalités de prière dans, je crois, l'esprit franciscain. Dans un esprit de... Là aussi, je rejoins ce que disait Guillaume sur le silence, la mise en présence, cet effort de faire le vide pour permettre à Dieu de rentrer en soi. Évidemment, l'esprit de louange et d'action de grâce dont on a beaucoup reparlé. Je voulais dire que la prière chez les franciscains essaye d'éviter parfois d'être trop intellectuel. François avait à l'égard du savoir une attitude tout à fait particulière, pas très facile. Il était un peu désespéré de voir se construire autour de lui des bibliothèques, des cursus universitaires, des choses comme ça, sur la fin. Et rappeler en permanence la parole du Christ, je te rends grâce au Père d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents. Et dans un billet qu'il a adressé à saint Antoine de Padoue, qui avait commencé un enseignement théologique, il lui dit « Il me plaît que tu enseignes aux frères la sainte théologie, pourvu que durant cette étude, tu n'éteignes pas l'esprit de prière et d'amour de Dieu, comme il est indiqué dans la règle. » Ça, je pense que c'est complètement essentiel. Fais toutes les recherches que tu veux, toutes les études universitaires que tu veux, mais ne perds pas, reviens, comme vous disiez, reviens à ton cœur en permanence. Prie et ne fais pas la leçon. Et là, je voudrais juste terminer en évoquant quelque chose, un épisode de la vie de François qui, pour moi, que je trouve fascinant, qui est celui de ce qu'on appelle la prédication par la cendre. François est demandé par les sœurs de Claire d'Assise, en leur couvent de Saint-Damien, qui lui demandent de venir à plusieurs reprises, qu'ils l'attendent comme quelqu'un qui va faire une prédication extraordinaire, qu'ils l'attendent vraiment comme le Messie, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter, etc. Et François arrive, il dessine un cercle, il se met au milieu du cercle, il demande qu'on lui apporte de la cendre. Il se la met sur la tête. Alors, j'ai pas apporté de cendre, je peux pas le faire, de toute façon je suis pas Saint-François. Il dit une courte prière et il s'en va. Moi, cette affaire-là me fascine. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on attend des choses de moi, j'en sais rien. Mais est-ce que le plus important, c'est que j'arrive à tourner les gens avec qui je suis vers Dieu, ou que je parle, ou que je fasse mon cinéma? On est tous dans cette situation-là, quand on est demandé pour intervenir ici ou là, ou les enseignants savent bien ça, il faut donner à manger aux gens. On se dit, mais oui, il faut qu'il y ait du contenu, puis qu'est-ce qu'on va se penser de moi, etc. François nous dit, non, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans le vide qu'on peut faire en soi, et qui permet d'accéder à Dieu. Je crois que c'est un petit peu un esprit de prière, je l'espère franciscain, mais je sais que je vais me faire contredire par mes amis maintenant, à partir de maintenant.
Merci beaucoup pour cette magnifique, magnifique Fioretti. Eh bien, il nous reste 20 bonnes minutes d'échange avec la salle. Je pourrais peut-être prendre une première question. Par hasard, par là, non? Oui. Ah, pardon, madame, oui. Qui souhaite prendre la parole?
Bon, il y a quand même, oui, il y a effectivement un aspect essentiel, c'est que le plus important, c'est quand même pas le fondateur, c'est celui à la suite du Christ. Ce fondateur s'est mis et nommé avec lui, qui est Jésus-Christ. Première chose. Deuxième chose, en tout cas pour nous, hein, dans le monde ignatien. C'est aussi l'interprétation et la fidélité aux différents textes qui nous fondent, qui sont les exercices spirituels, les constitutions, et puis on a la chance de disposer de milliers de lettres qui sont à disposition de nous tous. Voilà, c'est cette mise à disposition qui le fait qu'on soit invité, chacun de nous, à les lire, à les relire, à les interpréter. Voilà. Alors ça n'évitera pas toutes les dérives, évidemment, mais je crois vraiment que ça aide. Ça aide beaucoup.
Père Emmanuel-Marie, vous voulez dire quelque chose?
Votre question est, je trouve, très pertinente et pour un Augustinien assez à la fois facile et difficile, parce qu'Augustin a écrit une règle, mais comme sa règle est courte, très brève, elle laisse libre interprétation ensuite aux générations de fonder des congrégations, des ordres, des communautés qui peuvent avoir des nuances d'action ou de vie qu'il n'a jamais empêché. Il y a aussi le fait qu'Augustin a écrit dans des contextes assez polémiques, que ceux qui le prennent par un tout petit bout, qui n'en prennent qu'un paragraphe, qu'une idée, en l'isolant du reste, peuvent arriver à des catastrophes comme le jansénisme ou d'autres doctrines extrêmement erronées et qui font mentir Augustin. Il me semble qu'il faut laisser aussi l'arbre grandir, pousser, et puis que chaque communauté sache revenir à son fondateur, le contempler, l'aimer. Moi, j'avoue que je demande à mes frères de beaucoup lire Augustin. C'est en le lisant, en le méditant, qu'on reste fidèle à sa pensée et à son cœur.
Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que le fondateur est le fondateur, et c'est pas... Voilà. Il y en a d'autres après, hein. Protéger le fondateur, je crois que c'est le protéger de l'idolâtrie, hein, isoler une spiritualité en la concentrant sur le fondateur, ça c'est dangereux, je pense, parce que il y en a d'autres après et qui vont peut-être aussi loin que le fondateur. J'ai été très frappé de me rendre compte récemment que, en discutant avec des amis d'Athée des Quarts-Mondes, que quand le père Joseph est décédé, je crois que c'était en 1988, il y a des gens qui ont dit naturellement le mouvement ne va pas continuer. Mais il a continué, et heureusement qu'il a continué. Le frère franciscain Frédéric-Marie Leméoté disait « Quand François soigne le lépreux, on regarde François, on oublie de regarder le lépreux. Quand Mère Teresa soigne les malheureux de Calcutta, on regarde Mère Teresa et pas les malheureux. » Donc, éviter cette idolâtrie et prendre en compte tous les apports tellement importants qui sont venus en ce qui nous concerne après François, avec Bonaventure, mais bien d'autres après, qui ont enrichi son apport, sa pensée.
Une autre question, monsieur ou madame, je crois que vous étiez...
Dans vos spiritualités, comment vous équilibrez corps, âme, esprit?
Comment vous équilibrez?
corps, âme, esprit.
Il répond.
Oui. Enfin, c'est. Je réponds à partir de l'expérience des exercices spirituels, où le corps est très présent d'emblée, à travers des exercices que Ignace demande d'imaginer les lieux, et d'imaginer y compris l'odeur, voilà la disposition, etc. Donc le corps est très engagé, le corps, l'imagination, la mémoire, et puis dans certains exercices, l'intelligence comme telle est explicitement engagée, ce qu'on appelle plutôt des exercices de méditation. D'autres, c'est plutôt ce que, dans la terminologie, la triple terminologie que vous signalez, c'est plutôt de l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire ce lieu, ce cœur-esprit qui est le lieu de l'engagement total, de la liberté au fond. Voilà. Donc c'est toutes ces dimensions sont engagées, et c'est effectivement, je crois, la force de nos spiritualités là, c'est que ce sont des spiritualités de l'incarnation. Voilà, donc c'est la vie de l'esprit, la vie de Dieu, l'appel de Dieu, la manière dont Dieu agit, ça passe par les corps, ça passe par la vie, ça passe par les sens, et ça passe aussi par l'intelligence. Voilà.
Du côté d'Augustin, je voudrais souligner deux, trois points. D'abord, du point de vue de l'intelligence et du cœur, Augustin ne peut pas séparer la recherche de la vérité de l'amour. On dit très souvent, on ne va à la vérité que par l'amour. On entre dans la vérité, plus précisément, on entre dans la vérité que par l'amour. Lui qui était un grand intellectuel ne pouvait pas penser la quête de Dieu sans une quête dans la charité. Il est vraiment un docteur de la charité. Ensuite, pour le corps, il a écrit sur le travail manuel. Il est bon que dans une communauté, il y ait du travail manuel. Ça fait partie de l'équilibre. Et puis, un des lieux de cet équilibre corps, âme et esprit, moi, je le vois très nettement dans la liturgie. Augustin et sa spiritualité, une spiritualité très liturgique. Et dans la liturgie, le corps, par la voix, par les gestes, même s'ils sont sobres, sont mis en œuvre pour que le cœur aussi soit aidé à aimer.
Alors moi je voulais dire joker parce que il y a tellement de frères franciscains qui sont tellement plus compétents que moi pour répondre à cette question, et j'espère qu'ils vont y répondre, et qui m'ont tellement aidé dans l'écriture de ce livre que j'estime un peu collectif. Juste une remarque, François avait l'habitude d'appeler son corps frère âne, ce qui n'était pas très respectueux. Il a reconnu à certains moments qu'il l'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop malmené, ce corps. Il est mort jeune quand même, quoique même à cette époque, mourir vers 40 ans, c'était pas particulièrement jeune. Ensuite sont venus les stigmates, qui sont une manifestation corporelle en François de l'amour de Dieu, très mystérieuse, pour moi très mystérieuse, personnellement. Et puis sur l'esprit, la spiritualité... Je rejoins un petit peu ce que disait le frère Emmanuel Marie. Il y a une spiritualité liturgique. François a écrit des offices auxquels il tenait beaucoup et auxquels ses frères tenaient beaucoup. Mais je m'arrête là. Surtout, je m'arrête là maintenant. Parce que...
Merci aussi de souligner justement ce mystère des stigmates du corps malmené. C'est aussi une question dans la tradition chrétienne. Une autre... Oui, madame, vous demandiez là depuis un moment.
Est-ce que les deux pères qui sont là peuvent nous parler de la spiritualité de laïcs associés à vos à Ignace et à Augustin? Puisque nous, on a les franciscains, et moi j'aimerais aussi savoir, vous.
Alors, la spiritualité ignatienne, de fait, est une spiritualité qui est vécue par une grande pluralité de communautés. Alors il y a les jésuites qui ont été fondés par Ignace, mais très vite Ignace a reçu la demande d'un certain nombre de femmes de devenir jésuites. Il y a eu quelques essais, mais qu'Ignace n'a pas considéré comme étant suffisamment concluant, ce qui a eu la belle conséquence de la création de beaucoup de congrégations, de groupes, de religieuses, de sœurs, de spiritualité ignatienne, mais qui ne dépendent pas des jésuites, qui ont leur propre, qui sont tout à fait autonomes. Simplement, elles s'inspirent de cette spiritualité. Certaines reprennent même les constitutions. Et puis les laïcs. Alors il y a des grands groupes constitués de laïcs ignatiens, comme la communauté de vie chrétienne. Alors il y en a sûrement dans la salle qui pourraient parler beaucoup mieux que moi, même si j'ai accompagné quelques équipes de démarrage. Il y a ensuite des mouvements de laïcs inspirés, alors plus lointains, comme le mouvement chrétien des cadres, inspiré de la spiritualité jésuite. Et puis il y a des mouvements plus récents, comme le chemin neuf. Donc il y a quelques représentants ici qui a la particularité de nous révéler que cette spiritualité n'est pas réservée aux catholiques. Elle est aussi vécue par un certain nombre de protestants, de réformés.
Il y a dans la salle des frères prémontrés, donc des Norbertins, et ils pourront vous dire très bien qu'au moment de la fondation de l'ordre de Prémontré, donc au XIe siècle, l'abbaye de Prémontré avait avec elle à la fois un couvent de femmes et aussi un ensemble de laïcs qui s'étaient associés à eux, qui étaient même extrêmement nombreux. Il semblerait que avant les tiers ordres franciscains, il y a eu des tiers ordres prémontrés, où les laïcs étaient extrêmement attirés par une radicalité à leur mesure. Tout cela fait que dans le grand arbre, parce que c'est aussi un arbre, l'ordre augustinien, il y a des congrégations de chanoines, il y a des congrégations d'ordre actif qui ne sont pas des chanoines réguliers. Il y a dans la plupart des communautés de chanoines, donc liées à un lieu, à une abbaye, à une communauté, des oblats. On les appelle plutôt des oblats, ou des familiers parfois, ou des tiers ordres aussi, qui sont liés donc à l'abbaye, à la communauté. Et on y retrouvera donc les grandes caractéristiques de notre spiritualité. Donc une amitié, c'est très important, une amitié, une communion aussi humaine d'amitié et spirituel, et une participation à l'amour de la liturgie, à l'amour de ce sens de l'Église et de ce rayonnement que aussi le laïc peut porter autour de lui par ce lien très fort et très beau.
Michel Sauguet, vous voulez ajouter quelque chose? Vous êtes vous-même, vous témoignez de l'existence de cette... Ce tiers ordre qui est devenu l'ordre, c'est qu'il y a eu un changement qui correspond à un changement de spiritualité?
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
L'OFS, ordre franciscain séculier, qui comprend à peu près, je pense, 3000 personnes en France, mais tout ça diminue un petit peu. Et qui est composé de fraternités dans toute la France. Mais aussi dans d'autres pays d'Europe, naturellement. Je voulais juste... Quand j'ai dit que François avait écrit des offices, c'est pas tout à fait ça. Il a composé des offices à partir de textes de l'Écriture, je veux pas dire de bêtises.
Voilà. Merci pour cette précision. Une autre question, peut-être?
Oui, madame. La question porte sur la façon dont c'est... différents fondateurs et grands spirituels sont reçus dans d'autres cultures. Je sais que Michel, tu es un spécialiste de l'interculturalité. Père Guilhem, vous enseignez en Asie du Sud-Est, en Chine. Augustin est considéré comme, évidemment, un des piliers de la culture occidentale, latine, bien sûr, mais alors ma question porte sur la façon dont peuvent recevoir d'autres cultures ces différentes traditions spirituelles.
Oui, intéressant pour les jésuites. Moi qui ai vécu un peu avec le père Sérac en Inde, aujourd'hui il y a le quart de la compagnie de Jésus, non, qui est indienne.
La spiritualité jésuite est très bien reçue dans On voit en Inde aujourd'hui... Alors après, quand on regarde un peu l'histoire, c'est compliqué quand même. Hein. Il se trouve que les jésuites sont fondés au moment, la découverte de l'Amérique, les grands voyages exploratoires, voilà. Donc la question de la rencontre avec les autres cultures s'est posée immédiatement dès l'origine, et l'attitude même à laquelle les exercices et les constitutions nous invitent, c'est une attitude d'écoute et de découverte. Il y a de très belles lettres de François-Xavier arrivant au Japon. On voit que quand il arrive, il écrit, il décrit ce qu'il voit, il comprend pas trop. Et deux ans plus tard, quand il réécrit, on voit qu'il a vraiment, vraiment compris, il est rentré dans la culture. Voilà, donc il y a ces choses-là. Ce qui s'est passé en Amérique latine au moment des réductions aussi, avec toute une recherche sur la musique des Indiens Guarani, par exemple. Donc c'est effectivement. Alors après, il y a des difficultés qui tiennent, par exemple, dans certaines cultures asiatiques, le rapport à l'autorité peut être un obstacle assez difficile à surmonter. Le rapport à la parole aussi n'est pas évident. Donc il y a du travail à faire et à vivre. Mais ça avance bien.
Père Emmanuel, Marie, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je pense que Saint-Augustin est un tel génie qu'il a pas colonisé le monde entier, mais il est très connu un peu partout. Je peux donner un témoignage. Il est assez aimé en Afrique du Nord. Il l'estime beaucoup parce que c'est un des leurs. Et une fois, j'étais dans le train, je lisais, et en face de moi, une jeune femme m'interroge et me dit « Je suis musulmane, je voudrais lire les œuvres d'Augustin parce qu'il est de mon pays. Par quoi dois-je commencer ?» Et puis, mais par contre, il est assez mal reçu chez les Orientaux. Les orientaux orthodoxes qui lui reprochent d'être comme le fondateur de la romanité, d'avoir été le responsable du péché originel de la romanité pour eux. Donc il y a une espèce de passif qui me paraît en partie injustifié parce que d'un point de vue très théologique, on pourrait trouver des points de convergence extrêmement grands avec les pères grecs. Et je trouve que c'est extrêmement dommage, mais c'est vrai qu'en Orient, il est orthodoxe. Hein, il n'est pas très bien reçu. Il y a certainement un travail à faire.
Du vivant de François d'Assise, François a favorisé le fait que beaucoup de frères sont allés un petit peu partout, en Europe d'abord. Donc cet esprit de diffusion de l'esprit franciscain était déjà présent. Aujourd'hui, je dirais que la réponse est dans la salle, puisque nous avons des frères capucins notamment qui viennent d'autres cultures et qui contribuent au renouvellement de l'ordre ici, je pense. Je voulais juste ajouter une chose qui est la chose suivante. En 1987, puis 25 ans après, en 2011, le pape Jean-Paul II puis Benoît XVI ont organisé, comme vous le savez, ont suscité une prière commune à Assise qui réunissait des gens qui venaient de toutes les religions possibles et imaginables. Enfin, j'exagère un petit peu, mais enfin bon, il y avait là des musulmans, beaucoup de spiritualités asiatiques aussi, africaines, etc. Et moi, je pense que le choix d'Assise était extrêmement significatif, parce que dans l'univers chrétien, je pense que François a une place particulière comme médiateur post-mortem, maintenant, aujourd'hui, comme médiateur entre des cultures plutôt occidentales, centrées, qui ont été longtemps centrées sur l'homme maître et possesseur de la nature, etc., centrées sur la maîtrise de la nature. François avait une position à l'égard de la nature, de la création, dans laquelle il la considérait comme une famille et se considérait comme une membre de une conception un peu de symbiose avec la création qui rejoint beaucoup les conceptions animistes et les conceptions de certaines spiritualités asiatiques. Et je pense qu'il a un rôle, qu'il a eu là un rôle très important de finalement de trait d'union qui fait que peut-être les représentants des autres religions sont venus. Je ne dis pas qu'ils ne seraient pas venus si ça n'avait pas été assis, mais ça a aidé. Il me semble que ça a aidé.
Merci beaucoup, Michel Soquet. Je crois que, excusez-moi, monsieur, on continuera un peu en off la discussion, parce que, en fait, le Centre Sèvres ouvre exceptionnellement pour nous, grâce au Père Guilhem, jusqu'à 22h. Et il faut qu'il y ait un petit temps là de signature, donc on va arrêter les questions publiques là. Je voulais vraiment remercier grandement les trois intervenants. Je trouve qu'on a vraiment vécu une expérience de communion, d'unité dans la diversité, qui était vraiment très agréable. Enfin, en tout cas, moi, je le sens d'où je suis. Je ne sais pas si vous l'éprouvez aussi. Donc, un immense merci pour votre participation. Merci. On peut applaudir les intervenants. Et puis en partant, n'hésitez pas à prendre un exemplaire du magazine Prier. Il y a un dossier sur Mata El Maskin. C'est encore un autre type de spiritualité. C'est un grand spirituel cop du XXe siècle qui vaut vraiment le coup d'être découvert et qui cite Saint Augustin. Voilà, avec beaucoup de